Mais sinon, nous sommes également joints par téléphone par le professeur et vice-doyen de la faculté d'éducation, Martin Lépine. Bon matin, M. Lépine.
Bonjour, M. Laverdure.
Alors, M. Lépine, on voulait vous jaser aujourd'hui, ben justement, pour jaser culture et intégration aussi de la culture dans le système d'éducation québécois. Le gouvernement du Québec a annoncé le 22 novembre un investissement important de plusieurs millions de dollars dans le domaine de la culture, ayant l'objectif, et je les cite, d'accroître l'accès pour le milieu scolaire aux œuvres québécoises et d'assurer une meilleure intégration de la culture dans la pédagogie. Dans cette optique, comment un investissement du genre pourrait impacter la place de la culture en éducation?
C'est une excellente question qui commence bien ma journée parce qu'elle tombe pile dans mes cordes. Enfin, il faut d'abord dire que tout investissement qui marie culture et éducation, c'est une bonne nouvelle. Hein, parce que on a connu des années de vaches maigres aussi. On voit dans les mesures annoncées qu'il y a une mise à jour des cachets pour les artistes qui viennent à l'école, mais mise à jour de cachets qui n'avaient pas changé depuis 1999. Donc, il y a vraiment une forme de mise à jour des liens culture-éducation à faire au Québec. Et donc, toute initiative en ce sens-là est bien sûr bienvenue. Mais quand je vois la série de mesures qui a été proposée dans l'annonce du gouvernement, mais oui, accroître l'accès à la culture, mais on aurait peut-être pu ajouter accès à la culture numérique, aussi, parce que plusieurs des projets qui sont financés, finalement, se transportent vers Internet, vers le numérique, vers des plateformes en ligne. Et quand on s'intéresse de près aux arts et la culture, on se rend compte rapidement que c'est d'abord et avant tout des expériences sensorielles là où tous les sens sont sollicités, c'est-à-dire que si on va voir un spectacle au Centre culturel de l'Université de Sherbrooke, c'est pas la même expérience que à la Chapelle du Rang 1 à Lac Mégantic. C'est-à-dire que, tu sais, même le lieu de l'événement contribue à notre appréciation du spectacle. Donc, quand on parle de culture, puis on envoie le tout presque exclusivement sur les plateformes numériques, à un moment où les enfants, les adolescents sont déjà beaucoup sur le numérique, beaucoup en téléenseignement. Je pense à ma fille de 8 ans qui est en téléenseignement depuis déjà presque 10 jours. Ouais. Est-ce que le meilleur investissement à faire à ce moment-ci, c'est d'envoyer encore les enfants et les adolescents vers des plateformes numériques pour lire des livres numériques, pour avoir accès à des œuvres culturelles numériques, pour les enseignants avoir une formation virtuelle numérique et pour avoir des capsules vidéo en collaboration avec Télé-Québec d'élèves du secondaire qui font des capsules numériques. Je pose la question quand même.
Mais qu'est-ce qui serait le plus intéressant selon vous, justement, qu'on utilise cet investissement-là? On le sait, par exemple, que oui, cet investissement-là peut servir à financer des troupes de théâtre jeunesse qui vont permettre de faire du théâtre à l'école, du théâtre aussi dans les salles et tout ça, mais justement, on est dans une belle période économique actuellement, là, avec un manque de main-d'œuvre, un manque de cachet, justement, pour payer ces artistes-là. Oui. Cependant, est-ce que vous priorisez quand même, justement, une culture qui sort des classes, qu'on emmène les jeunes vers la culture?
En fait, il faut les deux. C'est-à-dire, il faut que les arts et la culture viennent à l'école, envahissent les murs de l'école, envahissent les murs même, je dirais, de la classe. Parce que le cœur de la vie scolaire pour les enfants là et adolescents, mais ça se passe quand même dans un local de classe et en général avec devant eux un enseignant. Et donc, moi, toutes mes actions là, depuis près de 25 ans là, pour favoriser l'accès aux arts et la culture en éducation, mais tournent autour du fait que l'enseignant est le pilier et le passeur culturel par excellence. Puis si on a de l'investissement à faire, c'est d'abord et avant tout auprès des enseignants qui, eux, oui, bien sûr, vont faire venir des artistes pour les aider, là, soit dans leur classe ou dans leur école. Donc, du budget pour faire venir les artistes, mais aussi du budget pour sortir des murs de la classe et de l'école, puis aller rencontrer les artistes dans leur milieu de travail. Je vous parlais tantôt là, d'une expérience sensorielle. Donc, c'est sûr que si on transforme toutes les pièces de théâtre en pièces de théâtre qui ont lieu dans le gymnase de l'école, plutôt qu'aller, disons, à la Maison Théâtre à Montréal pour vivre une expérience complète, bon, c'est mieux que rien, mais c'est pas l'expérience totale. Et donc, si on veut vraiment donner goût des arts vivants aux enfants, aux adolescents, mais il faut aussi aller vers la culture, dans les lieux de culture, dans les musées, par exemple, dans les salle de spectacle, bien sûr, aussi. Mais donc, tu sais, le cœur de la vie scolaire se passe beaucoup dans la classe. Là, c'est 5 heures par jour au primaire dans la classe. Mais assurons-nous que quand l'enseignant est avec ses élèves pendant 5 heures de temps, que lui-même soit très allumé, soit un passeur culturel qui est en mesure d'être critique, interprète d'objets de culture au quotidien, donc intégrer les arts de la culture au quotidien, mais aussi qui est capable de préparer ses élèves à des sorties culturelles, à développer chez ses élèves. Là, je vais vous donner une expression qui m'est chère de plus en plus, c'est-à-dire développer des réflexes culturels. Tu sais, développer un réflexe culturel, c'est faire en sorte que quand, au-delà de l'école, là, quand l'école est terminée, un enfant, un adolescent a quand même le goût d'aller à la bibliothèque, aller emprunter des livres. En début de saison, il a le goût de consulter la brochure du centre culturel pour voir les spectacles qui s'en viennent. Quand il va venir une exposition dans un musée, il a développé le réflexe culturel de peut-être s'y intéresser, puis peut-être d'inviter même les membres de sa famille à joindre à lui pour aller assister à une nouvelle exposition, à titre d'exemple.
Pensez-vous, c'est ça, je vous entends, vous nous disiez que ça prend, le professeur doit aussi jouer un certain rôle de passeur culturel. Trouvez-vous qu'actuellement, avec les pressions qu'on met sur les professeurs, est-ce qu'on pourrait pas créer un nouveau poste? Là, je sais, encore, c'est encore pire de vouloir créer un nouveau poste dans les écoles. Oui. Là, je sais qu'avec le budget qu'on a, c'est impossible. Mais est-ce que ce serait pas intéressant d'aller chercher peut-être un récréologue, quelqu'un qui vient aider le professeur à mieux aider ses mm-hmm. élèves, justement, qui aident en fait les professeurs à devenir ces passeurs culturels-là, parce que le professeur n'a pas nécessairement le temps de faire toute cette recherche-là, en plus de toutes ces tâches qu'il a à faire à la maison et tout ça.
Oui. Non, je comprends bien que les enseignants sont débordés. Je suis un enseignant de français du secondaire de formation. Ma conjointe est enseignante au primaire. Mais quand bien même on engagerait, par exemple, 200 récréologues. Bon, il y a 2500 écoles primaires et secondaires au Québec. Donc, moi, comme enseignant, dans une école où il y a une vingtaine de classes, parmi 2500 autres écoles, le fameux récréologue, là, je le verrai une fois par année, je suis chanceux. Et donc, si on pense que j'ai les élèves devant moi 5 heures par jour, en fait, le meilleur investissement à faire, je le répète un peu, mais c'est dans l'enseignant lui-même, parce que lui, il est là 5 heures par jour avec les enfants, les adolescents. Et donc, ça n'empêche pas, par exemple, de penser libérer ou dégager de temps en temps les enseignants pour qu'eux-mêmes se nourrissent sur le plan culturel, hein, et aller se former. Par exemple, dans l'offre du gouvernement, il y a de la formation virtuelle pour les enseignants. C'est pas mauvais en soi, là, mais c'est une des choses, moi, à laquelle je rêve aussi, puis mes actions à la faculté d'éducation depuis une douzaine d'années vont en ce sens-là, c'est de faire en sorte que les enseignants, les futurs enseignants, aient des accès privilégiés aux arts et à la culture directement sur le campus, comme on avait des accès privilégiés pour le centre sportif, mais pensons ces accès-là aussi privilégiés pour le centre culturel. Et donc, misons sur les enseignants pour nourrir leur bagage culturel, en faire de réels là, interprètes, critiques d'objets de culture, parce qu'ils peuvent comparer, par exemple, différents spectacles qu'ils ont vus, parce qu'ils n'en ont pas vu un seul. Et donc, si j'avais là, de l'argent à investir en éducation, puis on sait qu'il y en a, hein, de l'argent, on l'a vu pendant la pandémie, là, on peut en créer, là, puis ça semble pas être un problème quand on y croit vraiment. Et donc, de faire en sorte que les enseignants, sans ajouter à leur tâche, parce qu'une bonne intégration des arts et de la culture à l'école, c'est une intégration qui se fait au quotidien, dans le quotidien scolaire. C'est-à-dire, j'enseigne, par exemple, le français, j'utilise des œuvres littéraires, bon, et voilà, une œuvre d'art. Donc, déjà, j'enseigne les mathématiques, j'initie les élèves, par exemple, au jeu des géométries avec un spectacle de cirque qu'on s'apprête à aller voir où, justement, il y a des formes sur scène qui rappellent des formes mathématiques. C'est d'intégrer la culture à l'école, c'est pas nécessairement un surplus. C'est vraiment, je dirais plutôt, un moteur qui donne du sens à tout le reste. C'est-à-dire qu'en intégrant les arts et la culture à son enseignement de toutes les disciplines scolaires, là, autant en mathématiques, en éthique, culture religieuse, en français et autres, mais ça permet de donner du sens aux apprentissages puis répondre en gros à la question « Mais pourquoi je vous enseigne présentement l'accord du participe passé pour la millième fois dans votre parcours scolaire? Là? Est-ce si important que ça? » Et puis, si on n'est pas capable de répondre à la question « Mais pourquoi c'est si important? » Mais on est peut-être mieux de faire autre chose.
Et pour terminer, M. Lépine, quel est votre plus grand souhait en termes d'apprentissage de la culture pour les générations futures? Qu'est-ce que, par exemple, je vous donne un budget illimité, je vous donne des professeurs illimités. Qu'est-ce que vous voudriez dans un monde parfait pour la propagation de la culture chez les jeunes?
Bon, très simple. Je veux que tous les enseignants du Québec, qui sont près de 100 000, là, aient une espèce de carte, un genre de passeport culturel, là, un billet or, là, qui leur donne accès gratuitement à tous les musées du Québec dès demain matin, qui leur donne des privilèges, des gratuités ou des accès à faible coût à toute activité culturelle, même pour l'achat de livres, par exemple, dans les librairies, et pour aller voir, par exemple, aussi des spectacles, mais aller dans des lieux culturels, dans des événements culturels. Donc, faire en sorte que tous les enseignants du Québec gagnent en dimension, tu sais, gagnent une espèce de profondeur, comme une espèce de troisième dimension culturelle. Et là, ultimement, ben, c'est mes trois enfants qui vont en profiter. C'est vos éventuels enfants. C'est les enfants de tout le monde, parce que devant eux, ils vont avoir quelqu'un qui est capable de situer les apprentissages au-delà de la page 22 du numéro 3 de ce matin.
Mais professeur Lépine, juste à faire théorie, je suis tellement d'accord avec vous parce que, tu sais, même moi, si je me fie à mon parcours personnel, puis même des gens dans ma famille, souvent les enseignants qui sont les plus marquants, c'est ceux et celles qui sont capables de transmettre une passion qui souvent est culturelle. Je me rappelle, j'ai eu une prof au secondaire qui tripait donc sur Molière, puis pour vrai, j'aurais jamais... C'est con, le Molière, pourtant, c'est tellement... C'est connu dans la langue française, mais j'aurais jamais pensé, par exemple, m'intéresser aux comiques utilisés dans, par exemple, l'écriture du malade imaginaire. Mais elle était tellement passionnée par ça qu'elle a transmis cette passion-là. Puis finalement, ben aujourd'hui, pourquoi je connais Molière? Ben c'est à cause d'elle, sinon...
Oui, puis je vous disais tantôt, hein, les arts, la culture, c'est d'abord une expérience sensible. Ben donc ça, cette enseignante-là a réussi à vous attirer par différentes entrées, même sensorielles. Là. Par exemple, par sa passion, puis donc vos yeux étaient sollicités, vos oreilles étaient sollicitées. Ouais. Elle vous faisait lire un vieux texte, disons, de Molière. Et là, donc, vos mains touchaient un vieil exemplaire qu'elle avait aimé. Blablabla. Et donc, à partir du moment où tous les sens sont sollicités, ben, la mémoire s'en souvient. La mémoire est marqué par ces expériences-là. C'est pourquoi toutes les téléséries qu'on voit sur Netflix, là, au bout du compte, là, un an plus tard, si je vous demandais de me parler de l'ensemble des séries que vous avez regardées pendant la dernière année, il y en aurait certaines qui se confondraient un peu aussi dans votre mémoire, parce que c'est comme en deux dimensions, un peu lisse. On est toujours dans le même sous-sol en train de voir, on dirait, le même film en continu, même si c'est des téléséries différentes ou des films différents. Mais si je vous dis, le spectacle qu'on a vu ensemble à la Chapelle Durand 1 à Mégantic il y a 3 ans.
Tout à fait.
On avait mangé un hot dog juste avant, puis l'éclairage fonctionnait pas ce soir-là, tu te rappelles, nanana. C'était quoi déjà le spectacle? Ah oui, Paul Piché qui était en perte d'équilibre sur son tabouret. Et là, vous voyez, c'est que j'ajoute de la chair autour de l'os. Puis bien souvent, dans le monde scolaire, on va direct à l'os, puis les enfants, les adolescents ne se rendent pas compte qu'il y avait de la chair qui nourrissait cet os-là avant de s'intéresser à l'os. Et donc, on perd du sens dans nos apprentissages, puis on ne souhaite même pas les faire. Fait que la motivation, l'engagement est au minimum. Moi, je suis spécialiste de la lecture, de l'appréciation des œuvres littéraires. T'sais, toutes les enquêtes nous disent qu'à partir de l'âge de 8-9 ans, là, au deuxième cycle du primaire, là, les attitudes positives envers la lecture commencent à décroître et ne font que décroître jusqu'à la fin du secondaire. Il y a des études américaines qui montrent qu'à la fin du high school américain, plus de 80% des élèves disent « Moi, je ne veux plus jamais lire un livre de ma vie. » Mais tu sais, il faut se questionner quand même sur nos pratiques. Donc, tu sais, je reviens un peu à votre question. Est-ce qu'on manque de temps un peu pour faire ça? Ben, c'est que présentement, on occupe le temps. On crée des analphabètes fonctionnels pour des centaines de milliers de personnes au Québec. On crée des gens qui n'aiment plus ou moins lire une fois sortis du cadre scolaire, mais on a peut-être à se questionner sur ce qui se passe pendant les 5-6 heures qu'on a avec les enfants, les adolescents par jour pour leur donner le goût, au-delà de l'école, de s'intéresser à la vie, finalement, tu sais, à la culture, là, c'est la vie. Et donc, que l'école donne le goût et ne dégoûte pas trop des arts et de la culture en général.
Très bien dit.
Effectivement, sous ces sages paroles, ben merci beaucoup Martin Lépine, professeur et vice-doyen de la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke. Merci encore d'aller nous parler de justement ces investissements majeurs de Québec pour initier les jeunes à la culture et de tout ce qu'on pourrait faire pour avoir une des prochaines générations plus culturées, comme on dit. Merci beaucoup, M. Lépine.
Je vous remercie, M. Laverdure. C'était une agréable rencontre.
C'était très, très plaisant, effectivement.